Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Stéphanie Rox, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois titres de ce dimanche.
Deux matchs, deux victoires, contrat rempli pour les Bleus, qualifiés en huitième de finale du Mondial.
Des écoliers privés de dessert à Agde à cause de l'augmentation des prix et les trains au ralenti entre Narbonne et Castelnaudary. Trafic perturbé après le déraillement d'un autre train mercredi à Carcassonne.
La matinale week-end.
Il va libérer tout le monde. L'arbitre, c'est fini.
Voilà.
C'est terminé. L'équipe de France s'impose face au Danemark. 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé.
Vous l'avez vécu sur RMC avec Jean Essayé hier soir. Les Bleus vainqueurs de leur bête noire. 2-1 face au Danemark.
L'équipe de France a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à un doublé de sa star Kylian Mbappé. Des buts inscrits à la 61e et à la 86e minute. On va retrouver son plus attendu Loïc Braillet qui a vécu cette folle soirée depuis Doha pour RMC. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Alors après la qualification, on imagine que ça a été la fête pour l'équipe de France.
Oui, alors dès la fin du match, tous les joueurs se sont rapprochés de la tribune où étaient réunies leurs familles dans ce stade 974. On a notamment vu Didier Deschamps embrasser sa femme Claude. Parmi les autres familles présentes, celle de Varane, Faïza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, Véronique Rabiot, la maman d'Adrien, Lilian Thuram qui avait fait le déplacement aussi pour venir voir son fils. On a vraiment senti les joueurs qui voulaient profiter de longues minutes avec leurs proches. Évidemment, Kylian Mbappé a ensuite fait l'objet de toutes les convoitise dans les entrailles du stade. Ivanka Trump, la fille de l'ancien président américain, aura même droit à un selfie avec la vedette française. En rentrant à leur hôtel assez tard dans la nuit, les Bleus ont été accueillis par une haie d'honneur du personnel du Al Messila Resort, leur camp de base. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Évidemment, une qualification qui logiquement va cimenter encore un peu plus la vie d'un groupe juste heureux de cette qualification en huitième de finale.
Vous nous en parliez de Kylian Mbappé. Je sais qu'il vous a encore impressionné hier par son incroyable maturité, Loïc. Le sélectionneur Didier Deschamps est revenu d'ailleurs sur la performance de son jeune joueur en conférence de presse.
Le fait d'avoir d'autres joueurs autour de lui aussi qui amènent du danger lui permettent d'être un peu plus libéré. Puis au-delà de ses énormes qualités au-dessus, bien sûr, hors normes, il s'inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d'efforts. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France a et aura besoin d'un très bon Kylian.
L'équipe de France portée par cet excellent Kylian Mbappé. Prochain match des Bleus mercredi face à la Tunisie. En attendant, il va y avoir une grosse affiche au programme aujourd'hui.
L'Espagne face à l'Allemagne. Une rencontre au sommet et déjà un match couperé. Les Allemands qui ont perdu contre le Japon n'ont plus le droit à l'erreur. Explication Timothée Mémon.
La pression est déjà maximale sur la sélection allemande. Une défaite et adieu le Qatar. Hans Flick, le sélectionneur allemand, tente de dédramatiser.
Je suis un optimiste. On a les qualités pour gagner et on va se concentrer là-dessus.
En face, l'Espagne, qui a parfaitement réussi ses débuts en battant le Costa Rica 7-0, n'est pas l'adversaire idéal pour se rassurer. Mais l'Allemagne reste l'Allemagne. Le milieu de terrain espagnol Dani Olmo se méfie.
Vous ne pouvez pas les enterrer après seulement un match perdu. Le match contre nous sera une vraie finale pour eux.
Une nouvelle élimination dès la phase de groupe, comme en 2018, sera un cataclysme pour la Nationalmannschaft, 4 fois championne du monde.
En attendant la suite de cette deuxième journée des matchs de poule, les résultats d'hier, hormis la victoire de la France face au Danemark 2-1, l'Argentine s'est donné un peu d'air face au Mexique, un succès 2-0. La Pologne a battu l'Arabie Saoudite du Français Hervé Renard 2-0. Et l'Australie est venue à bout de la Tunisie 1-0.
Merci beaucoup Stéphanie Rock. Toute cette Coupe du Monde à vivre sur RMC évidemment. Et tout à l'heure, 8h10, Daniel Riolo avec nous, avec vous, pour revenir sur ce match. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce le meilleur match depuis 2006 face au Brésil, comme le dit Daniel Riolo? Quelle stratégie adopter pour la suite? Où voyez-vous l'équipe de France aller jusqu'en finale ou pas? On attend vos réactions et vos commentaires. Il est 7h04. Stéphane Genest, les Bleus qualifiés, ça fait du bien, ça met du baume au cœur dans ce contexte économique où tout augmente.
Et on vous en parle souvent sur RMC, hein, de cette inflation galopante, un peu plus de 6%, et surtout de ses conséquences. Par exemple, dans plusieurs communes du pays, les repas dans les cantines voient leur quantité diminuer, les formules sont réduites, pas d'entrée ou pas de dessert ou pas de légumes. Comme à Agde, dans l'Hérault, le prestataire qui fournit les repas serait dans l'incapacité de faire face à l'explosion de ses charges à cause de l'inflation, précisément.
Davina Smart est présidente de la Fédération de parents d'élèves FCPE d'Agde. Elle a appris la nouvelle il y a une semaine et elle est très en colère.
de payer donc le même prix à la cantine et d'avoir moins, je trouve que c'est pas normal. Surtout que certains enfants, ils ont peut-être que ce repas équilibré par jour.
Même colère du côté des élus qui dénoncent une situation qui s'est dégradée dès le mois de septembre. Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges-d'Orque, espère que des solutions seront trouvées rapidement.
Le prestataire a enlevé un élément, donc notamment les desserts. On a signé ce marché en 2020, nous sommes engagés jusqu'en 2023. Et pour nous, il est indispensable que nous fassions vite parce que il faut que les élèves puissent être gérés au mieux et ce, le plus rapidement possible.
De son côté, la société chargée de préparer les repas explique ne plus pouvoir faire face à l'augmentation massive de ses charges. Thierry Pompadon, directeur général délégué du groupe SHCB.
Quand on a découvert que notre coût d'électricité allait être multiplié par 10, très sincèrement, on n'était pas prêt. On n'a pas eu trop le choix. On est en état de survie. On n'est pas en état de guerre, mais en état de survie. Donc, il faut réagir excessivement vite.
Selon les élus, une dizaine de communes seraient concernées par une réduction de leurs repas.
Le reportage d'Estelle Henry pour RMC.
Et tout à l'heure, le patron de cette société prestataire, Thierry Pompadon, que vous venez d'entendre, viendra nous apporter ses explications à 7h40.
Et pour l'heure, on en vient à cette affaire sordide. Un homme et une femme mis en examen hier pour actes de torture et assassinat. Ils ont été arrêtés après la découverte du corps de Marwan, un jeune homme de 25 ans, dans une malle en plastique près de Rouen. Il était porté et disparu depuis septembre, Guillaume Bier.
Le jeune homme était devenu le souffre-douleur du couple qui l'hébergeait depuis quelques jours à Saint-Germain-les-Arpajons dans l'Essonne. De simples connaissances rencontrées dans le milieu des rave parties avec lesquelles il partageait une addiction aux drogues de synthèse. Fin septembre, Marwan Swidi est mort chez eux, étranglé après avoir subi de multiples coups. Mais son bourreau ne s'est pas débarrassé du corps. Pendant des semaines, il l'a déplacé dans une malle de cache en cache, y compris en le laissant dans sa voiture quand il travaillait. Ce technicien ascensoriste a fini par le déposer dans la fosse d'ascenseur d'une résidence à Côtebec-en-Caux, près de Rouen, d'après nos informations. C'est là que les policiers de la PJ d'Evry l'ont retrouvé, sur les indications du suspect, arrêté après 2 mois d'investigation minutieuse à l'ancienne, souligne un enquêteur. En garde à vue, le meurtrier présumé, décrit comme froid, manipulateur et pouvant devenir très violent, a prétendu qu'il avait juste voulu se défendre face à la victime.
Le Guillaume Bier, chef du service police-justice de RMC.
7h07 sur RMC, la galère. La galère pour les usagers du TER de la ligne Narbonne-Toulouse. La faute à un déraillement d'un train.
Mercredi, près de Carcassonne, un train de marchandises a tout bonnement déraillé. Le trafic reprend partiellement, mais il est bel et bien perturbé. Les images sont impressionnantes. Les deux derniers wagons ont tout emporté sur leur passage pendant plusieurs centaines de mètres. Placide Arias est l'adjoint au domaine public de la mairie de Carcassonne.
Ce sont des travaux qui sont très très importants puisque, pour être précis à 100%, mais il y a entre 8 et 10 km de voies à refaire totalement. En gare de Carcassonne, il a arraché pas mal de rails, etc. Et puis tout ce qui était aux alentours de la voie. Les Carcassonnais utilisent, pas que les Carcassonnais d'ailleurs, mais ils utilisent énormément cette portion parce qu'ils comprennent parfaitement que la CNECF n'a rien à voir malheureusement par rapport à ce problème-là.
Et puis, pour finir ce journal, clap de fin pour la Star Academy 2.0. C'est Anisha qui a remporté le télécrochet. Anisha, que l'on entend avec
le titre
de là-haut, elle chante super bien. C'est un texte de Camilla Jordana d'ailleurs. Elle a, écoutez bien, été félicitée sur Twitter par un certain Serge Lama, figurez-vous. Il a félicité Anisha pour cette victoire de la Star Academy nouvelle édition. Et puis à noter, petite anecdote qui n'en est pas une finalement, le château de la Starac de Adam-Marie-Lélis, c'est en Seine-et-Marne, et bien il sera d'ailleurs ouvert au public pendant toutes les vacances de Noël, moyennant finance autour de 20 euros l'entrée pour visiter là où les candidats ont vécu pendant plusieurs semaines. Le château historique de la Starac.
Voilà, vous savez pas quoi faire à Noël, Peggy.
Et ça, c'est l'hymne de la Star Academy. C'est Céline Dion, évidemment.
Ah, c'est ça que vous chantiez depuis
absolument. Depuis hier, elle a remporté l'Eurovision avec cette chanson en 88, il me semble, pour être tout à fait correct.
Bravo à Anisha.
Vous étiez née en 88?
Oh, pas du tout. Et vous, Peggy?
Allez, au revoir, Stéphane.
Merci Stéphane Jeunesse, le retour de l'info tout à l'heure, 7h30, les 7h09, on se réveille ensemble dimanche matin, c'est un plaisir. Peggy Broche, des petits messages à nous lire.
Il y a Stéphane.
Salut Stéphane.
Mais un autre Stéphane qui nous dit, petit message pour vous dire bonjour, bonjour à tous les agriculteurs qui sont debout tôt ce dimanche matin pour nourrir leurs animaux, faire la traite, etc. C'est le début de l'hiver et les vaches sont rentrées à l'étable, donc ça fait un peu plus de travail, travailler tôt pour nourrir les gens. Je vous souhaite en tout cas un beau dimanche et je vous écoute.
Eh bien, beau dimanche à vous, Stéphane. Et bon dimanche, Bichente, bonjour.
Bonjour, Bichente.
Et bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Et vous?
Bah très bien, très bien. Vous, je crois que ça va encore mieux. Vous êtes sur la route des vacances?
Pas sur la route des vacances, non. Je pars au ski juste pour la journée. À défaut de partir en Martinique comme l'auditeur précédent, moi, je pars au froid, moi.
Ouais, bah, c'est pas mal froid. Quand même.
Ça y est, ça a ouvert. Vous allez à Val Thorens alors?
Non, pas Val Thorens. Là, je suis à Baquera Beret. C'est dans les Pyrénées catalanes.
D'accord. Et là aussi, c'est ouvert déjà.
Là aussi, ça a ouvert hier, ouais, avec un petit peu de neige. Donc, on va voir. On va tester ça aujourd'hui, savoir s'il y a de la bonne neige et si les pistes sont bonnes.
Mais alors, attendez, ça ouvre à quelle heure?
À 9h. Mais moi, j'habite à Hossegor et du coup, j'ai un peu moins de 3 heures de route.
Ah donc, ouais.
Je sens voilà, le fan
c'est clair.
Absolu de ski.
Ah, c'est clair.
Ah ouais, je suis passionné à fond. Là. Donc là, je pars tout seul, tranquillou, skier la journée, rentrer après le soir.
Bah parfait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bichente?
Je suis responsable magasin dans la grande distribution.
Et le week-end, skieur professionnel.
Le dimanche, quoi, parce que le samedi, bien sûr, nous, on continue à travailler toute la journée.
Oui, bien sûr.
Et vous êtes skieur ou surfeur?
Non, plus skieur. J'avoue que je préfère le blanc à la mer, quoi, à l'océan.
Non, mais on dit pas surfeur peut-être pour le ski.
Ah, oui, snowboarder.
J'utilise pas les bons termes aussi. C'est sûr.
Ah non, skieur. Skieur invétéré, non, fan de ski.
Il fait beau temps là à Hossegor ou pas? À Hossegor, oulala.
À Hossegor.
Ouais, oui, je sais, j'ai fait exprès.
C'est le grand débat ça, Hossegor. Ouais, il fait beau en ce moment. Aujourd'hui, hier, il a fait pas mal beau, mais après, sinon, ça a été catastrophique. Là, les deux dernières semaines, là, c'était pluie sans arrêt. Mais bon.
On se la ramène toujours avec le Pays Basque. Il fait beau. Voilà.
Ah mais on est la région qui cumule le plus de pluie, il me semble.
Ah bah voilà, merci de le dire. Enfin, honnête au Pays Basque. Bah, non, je plaisante, bien sûr, Bichente. Profitez bien de votre journée. Merci de ce petit gentil coup de fil. C'est la première fois qu'on se parlait, je crois, Bichente.
Exactement, c'est la première fois que je passe à l'antenne. C'est assez agréable.
C'est sympa. Agréable. Vous avez découvert RMC depuis quoi? Quelques semaines, quelques mois?
Non, ça fait très longtemps. Moi, je suis un adepte de notre ami Vincent Moscato, général.
15h, 18h, évidemment, voilà, Vincent, pour vous régaler. Bah, vous avez bien fait de composer le 32-16, c'est très, très sympa de vous avoir.
C'est avec grand plaisir.
Renouveler l'opération, Bichente.
Il n'y a pas de problème, je vous souhaite une belle journée.
Et salut, vous aussi.
À bientôt.
Un grand bonjour à tout le monde, au revoir.
Salut Bichente et bon ski. Il est 7h12, dans un instant...
Remettez le masque, c'est l'appel de l'infectiologue Benjamin Davido ce matin sur RMC.
C'est vrai qu'on compte désormais un millier de patients en soins intensifs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre de chiffres. 49 000 nouveaux cas en 24 heures, ce sont les derniers chiffres publiés par Santé publique France vendredi. Est-ce qu'il faut remettre ce masque? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous vous y préparez? 32-16, on en discute, c'est à vous de nous dire dans deux minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
7h13, bienvenue sur RMC. Il n'est plus obligatoire depuis le 16 mai dernier dans les transports. On pensait l'avoir oublié peut-être quasiment définitivement, mais il pourrait faire son retour. Et même il devrait faire son retour pour de plus en plus de professionnels de santé. Je parle évidemment du masque pour faire face à cette reprise d'épidémie de Covid en France.
RMC, à vous de nous dire.
Bonjour Margot Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour Margot.
Bonjour à tous.
La question est très simple et on vous la pose ce matin au 32-16 et sur nos réseaux sociaux, le compte Twitter d'RMC depuis 24 heures. Est-ce qu'il faut remettre ce masque?
Eh bien, c'est en tout cas ce que demande ce matin l'infectiologue Benjamin Davido sur RMC.
Il faudrait essayer d'aller vers une incitation forte au port du masque en intérieur. Aujourd'hui, je crois qu'il faut de la pédagogie, expliquer qu'il y a une situation très particulière avec la bronchiolite, il y a une menace d'une forte reprise épidémique de la grippe et qu'on arrive sur un début de 9e vague du Covid et que dans le vivre avec, eh bien, c'est se protéger les uns les autres dans des périodes où ces maladies circulent et où en intérieur, les virus ont tendance à nous contaminer.
En tout cas, la question se pose à nouveau et les pharmaciens le disent. L'épidémie reprend depuis une dizaine de jours. Plusieurs indicateurs se dégradent. 49 000 nouveaux cas de Covid enregistrés vendredi. C'est 10 000 de plus que la semaine précédente. Le taux de positivité des tests augmente. Les nouvelles hospitalisations aussi, plus 6% en une semaine, plus 9% en soins critiques. Mais pas le nombre de décès qui continue de diminuer. Une reprise de l'épidémie qui met une nouvelle fois notre système de santé à l'épreuve.
Oui, les hôpitaux à bout de souffle. D'autant plus, on l'entendait avec Benjamin Davido, qu'il n'y a plus que le Covid. Il n'y a pas que le Covid désormais qui inquiète les professionnels de santé.
Oui, ils redoutent une triple épidémie cet hiver. Épidémie de bronchiolite chez les bébés d'une ampleur sans précédent depuis 10 ans. Épidémie de grippe, pas encore déclarée, mais qui s'annonce plus précoce que les années précédentes. Et donc, potentiellement, une nouvelle épidémie de Covid. Dans ce contexte, Santé publique France encourage les Français les plus fragiles et ceux de plus de 60 ans à se faire vacciner et rappelle l'importance des gestes barrières et du port du masque à l'intérieur et dans les lieux bondés. Nous avons besoin de protection et le masque en fait partie, dit le nouveau président de la Fondation hospitalière, Arnaud Robinet, qui formule une demande: autoriser les maires à imposer son port dans les lieux clos et les transports en commun. Pour l'instant, seuls les préfets peuvent le faire. Ce n'est pas à l'ordre du jour du ministre de la Santé, François Braun. En tout cas, début novembre, l'Académie de médecine rappelait l'importance du port du masque à l'intérieur et dans les lieux avec beaucoup de monde.
Alors à vous de nous dire, est-ce qu'il faut remettre le masque?
Eh bien vous répondez non ce matin à 70% et vous réagissez à notre consultation RMC dans les commentaires comme Stéphane. Le masque, oui, mais uniquement pour les malades. Christian lui pense que cette décision doit se faire individuellement, collectivement et autoritairement. Elle ne sera plus acceptée. La Chine en est l'exemple même, c'est ce qu'il dit sur Twitter.
C'est vrai qu'il y a des révoltes face à la politique zéro Covid en Chine. Bon, on n'en est pas là. La politique zéro Covid en Chine, c'est à nouveau des couvre-feux et des obligations de rester absolument à l'intérieur de son appartement pendant toute la journée, voire plusieurs semaines. Bonjour Anthony.
Bonjour Anthony.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour Margot.
Nevers, c'est tout. Bah, c'est dans la Nièvre, évidemment, chez vous, Anthony. Oui. Le masque, vous vous préparez peut-être à le remettre dans certains endroits, vous le faites déjà?
Alors, le masque, on le remet, mais la question, pardon, c'est on le remet pour qui? Pour ceux qui sont malades, à ce que j'ai compris. Mais après, la difficulté, c'est de savoir qui est malade, tellement le virus, qui est toujours actif aujourd'hui, on le voit pas. Donc la difficulté, c'est de savoir qui est malade, et je pense pas que toute la population va commencer à se retester pour savoir qui est malade.
Mais vous l'avez remis déjà ou pas?
Non, du tout, je suis pas malade.
Il y a certaines personnes qui le mettent, par exemple, dans les transports.
Non, effectivement, non. Je pense que les Français, enfin j'espère ou je pense, sont assez responsables pour savoir quand est-ce qu'ils doivent le mettre ou pas. Et effectivement, j'ai eu le Covid il y a un mois et ça m'a pas dérangé de mettre le masque pendant une semaine pour me protéger moi et protéger les autres.
Quand on est diagnostiqué, quand on est testé positif, pour vous, c'est une forme de civisme de remettre son masque en cas de Covid, Anthony, et vous l'avez fait. Mais on le voit, depuis cette pandémie, il y a aussi les autres maladies. Et là, c'est malheureusement d'actualité cet hiver, la grippe, la bronchiolite. On voit que ce masque, qui a été la meilleure des protections pendant la pandémie de Covid, est aussi utile pour prévenir la grippe, par exemple, Anthony.
Complètement d'accord. Il n'y a pas que le Covid dans la vie. Il y a des autres maladies encore bien plus graves. Et donc, il n'y a pas que le Covid. Et même pour une grippe, je pense que c'est nécessaire de se protéger soi et de protéger les autres, effectivement.
Parce que, par exemple, la vaccination anti-grippe est à la baisse cette année. Eh bien, pourquoi pas essayer de pallier avec ce masque?
Ça peut être une flèche à son arc, comme on dit, mais la vaccination contre la grippe, elle, je crois, est efficace aussi. Donc, je pense que les personnes fragiles doivent se vacciner, effectivement.
Est-ce que vous pensez, comme le demande Arnaud Robinet, le maire de Reims, qui est désormais président de la Fondation hospitalière, si les maires pouvaient de nouveau imposer le masque ici ou là, est-ce que vous pensez que la population française serait prête à nouveau suivre ce genre d'interdiction, de restriction, de recommandation?
Il me semble que le maire, c'est le premier OPJ de la commune, mais c'est la première personne à respecter avec le curé et la maîtresse. Donc oui, c'est dans mes gènes de respecter le maire, le curé et la maîtresse. Donc oui, je l'écouterai. Ouais.
Bon, merci Anthony.
Eh bien de rien, bonne journée à vous.
Bon dimanche.
Merci d'avoir été avec nous.
Une pensée au marathonien.
Ah, au marathonien,
marathonien de Nevers aujourd'hui.
Ah, c'est le marathon de Nevers.
Oui.
Vous allez courir là? Non.
J'ai fait hier en relais, il y a une petite épreuve en relais hier sur le circuit de Manicourt, super sympa.
Combien de kilomètres vous avez fait?
Hier c'était le marathon en relais, on a fait 5-10, mais aujourd'hui c'est le semi-marathon et le marathon. Alors pensez à tous ceux qui mettent
la tête. On encourage tout le monde, ouais.
Allez, un bon petit jus d'orange, un bon petit café et c'est parti. Salut Anthony, bonne journée à vous. Tiens, message de Manu à propos du Covid aussi qui nous dit le masque, c'est un peu à l'appréciation de chacun si l'on est malade ou fragile. 32-16, vous poursuivez le débat évidemment avec nous. Il est 7h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Le PEL, comme un bon vieux copain qu'on avait oublié.
Ah oui, ça vous rappelle des souvenirs, ce PEL. Eh bien, sachez qu'il pourrait finalement nous sortir de l'impasse si vous n'arrivez pas à obtenir de crédit immobilier, et c'est le cas en ce moment. Miser sur le plan épargne logement. Pourquoi ? La réponse dans le coup de main IMO dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Bienvenue sur RMC, 7h22. Dans deux minutes, il est là, Arnaud Demange, pour sourire de l'actualité. D'abord, parlons de ce PEL, le bon vieux PEL, solution pour ceux qui cherchent à acheter.
Le coup de main immobilier.
Votre rendez-vous immobilier sur RMC, les astuces, les bons plans de Jean-Louis Delloro ce week-end.
Qui nous déterre donc de nos comptes bancaires le plan épargne logement. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Mathieu.
Ce PEL qui pourrait, vous nous le dites ce matin, redevenir bientôt très avantageux.
Oui, le PEL, le fameux plan d'épargne logement, c'est toute une histoire, hein. Ça a plus de 50 ans. Et il y a encore une vingtaine d'années, hein, tous les parents qui en avaient les moyens ouvraient un compte pour leur enfant. Alors il y en a moins qu'avant des PEL, mais ça reste quand même très populaire comme placement. Environ un Français sur cinq en possède un. À la base, ce placement doit permettre de se constituer un apport pour acheter un appartement ou alors financer des travaux pour son logement. En gros, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez verser un montant minimum quand vous ouvrez un compte. Et puis après, chaque mois, vous devez faire un versement minimum. Et ça, vous devez le faire sur une période assez longue. Par contre, autant vous le dire tout de suite, hein, si vous ouvrez un plan aujourd'hui, les rendements sont faibles, à peine 1%. Mais l'intérêt est ailleurs.
Alors justement, pourquoi ce regain d'intérêt ? Qu'est-ce qui pourrait bien donner envie aux Français de miser à nouveau sur les plans d'épargne logement ?
Eh bien, comme je vous le disais, c'est un produit fait à l'origine pour un achat immobilier. Et donc le PEL, c'est un peu spécial, hein. C'est le seul dispositif comme ça. Il y a deux volets et deux choses à la fois. C'est un placement rémunéré, on en a parlé, mais ça vous donne aussi droit à un prêt immobilier spécifique.
Ah bon ?
Oui, concrètement, vous avez donc mis de côté de l'argent avec votre PEL qui va vous servir d'apport. Et en plus, vous avez la possibilité de demander à votre banque un prêt avec un taux qui a été fixé à l'avance, le prêt épargne logement qui est associé à votre PEL. Alors attention, c'est là que ça devient intéressant. Et oui, car le taux est fixé au début du plan. Et actuellement, ce taux est de 2,2%. Il est bloqué, il ne peut pas changer. Il y a un an, hein, vous m'auriez dit, bah, 2,2%, c'est quand même pas terrible pour rester poli. Vous auriez eu raison, mais sauf que ça a changé. Vous me voyez venir. Qu'est-ce qui se passe depuis des mois et dont on vous rebat les oreilles
La
tout
hausse
le temps
des taux.
La hausse des taux, bien sûr. Les taux sont en train d'exploser. Hein. Sur 20 ans, c'est devenu quasiment mission impossible d'avoir moins de 2%. Et ça ne va pas s'arranger. Au contraire, les courtiers en crédit prévoient plutôt des taux à plus de 3% dans les 6 mois. Si vous voulez acheter une maison, un appartement, d'ici quelques années, ça pourrait donc devenir un très bon plan d'ouvrir un PEL maintenant. Par contre, il faut le savoir, il y a quand même une contrainte importante. Vous ne pouvez pas toucher à l'argent que vous avez placé, ou alors ça signifie la fin de votre PEL.
Oui, donc dans plusieurs années. Pourquoi dans plusieurs années ?
Mais oui, mais il y a un petit détail. Vous ne pouvez pas ouvrir votre PEL demain et demander un prêt dans la foulée. Vous devez au moins attendre 4 ans pour faire une demande.
D'accord.
Et au niveau du prêt, il y a aussi une autre limite. Vous ne pouvez pas emprunter le montant que vous souhaitez. Il y a un plafond. Alors là, c'est un petit peu compliqué pour faire le calcul, mais grosso modo, ça dépend de ce que vous avez mis dessus et sur combien d'années. Vous aurez de toute façon sans doute besoin de le compléter avec un autre crédit immobilier. Sachez aussi que vous pouvez céder à un membre de votre famille, vos parents ou vos enfants par exemple, ce qu'on appelle ses droits à prêt. Et un coup de main en immobilier, ce n'est jamais de refus.
Ah bah c'est le cas de le dire. Merci Jean-Louis pour le coup de main IMO. Vous êtes là à retrouver en podcast sur l'appli RMC. 7h25.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Vous êtes plutôt bleu marine ou camel ?
Oh, les deux.
C'était les couleurs des uniformes à l'école.
C'est vrai.
Le retour de l'uniforme à l'école, ça a beaucoup inspiré notre ami Arnaud Demange cette semaine.
Oui, alors ils disent tenue commune, hein, ils se mouillent pas. L'uniforme, c'est courant dans d'autres pays. Les petits japonais, on sait, ils ont leur veste noire à boutons dorés au centre. Les petits américains ont leur gilet pare-balles. les petits chinois ont leur petit bleu de travail et leur petit casque de chantier. Exception avec les petites afghanes qui ont un uniforme avec la mini burqa, mais qui ne vont pas à l'école pour le coup. C'est un sujet qui préoccupe la majorité depuis quelques années, notamment pour des questions de laïcité. On se souvient de Jean-Michel Blanquer qui voulait une tenue républicaine à l'école.
Mais c'est quoi une tenue républicaine? C'est une chemise citoyenne, c'est un pantalon patriote, c'est des chaussettes tricotées en fil de valeur de la République, c'est un slip démocratique. C'est pas très clair, cette définition. Bon, peut-être que l'uniforme va aider niveau laïcité, et alors, ça aidera aussi à attraper des pédophiles, je pense, parce que 300 collégiennes en jupette plissée ou en petite cravate uniforme. Tu vas choper Jean-Luc Lahaye et Morandini, on est dans les buissons à côté de l'école. Moi, je serais pour un bon vieux sac en toile de jute. Voilà, on prend pas de risque. En plus, on est français, on saura le rendre élégant.
Les temps sont difficiles en ce moment, et pourtant, Mathéo fait forte impression. Dans son sac en toile de 10 kilos de pommes de terre, 2 trous pour les bras, 1 trou pour la tête, une ficelle à rôti pour la ceinture, le style est là. Résistant, fluide, increvable, le sac en toile de jute habille de 3 à 12 ans dans une ligne élégante, économique, écologique et républicaine. Allez, à demain.
Arnaud Demange, que vous retrouvez, oui, dès demain, 7h20, 8h20 dans Apolline Matin, du lundi au vendredi et quand vous le souhaitez en podcast sur l'appli RMC. Le retour de l'info à 7h30, c'est ce Noël gâché par les grèves dans l'aérien. Explication dans le journal de Stéphane Genest. Vous êtes sur RMC, c'est l'info, c'est le sport. Stéphane Hiroc et Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois titres ce matin.
Le secteur de l'aérien aura du plomb dans l'aile sur la période des fêtes. Plusieurs syndicats du personnel navigant ont déposé un préavis de grève. Et le Père Noël sera sûrement moins généreux cette année. La faute à l'inflation, avec un budget revu à la baisse.
La France a vaincu sa bête noire. Victoire 2-1 face au Danemark. Et qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
Attention si vous avez prévu de prendre l'avion pour les vacances de Noël. Préavis de grève déposé dans le secteur aérien.
Les syndicats de personnel navigant réclament une hausse des salaires et des meilleures conditions de travail. EasyJet et Air France sont concernés par ce mouvement social, Rémi Inc.
Deux syndicats d'Air France appellent à la grève en pleine période de fête pour dénoncer les conditions de travail des hôtesses et des stewards. Mais la direction affirme qu'une nouvelle négociation doit se poursuivre au-delà de janvier 2023 et ces deux syndicats sont minoritaires. A priori donc, la grève a peu de chances d'aboutir. En revanche, du côté d'EasyJet, les deux syndicats qui vont déposer un préavis de grève sont majoritaires et les revendications portent principalement sur les salaires. Mot d'ordre plus engageant quand on sait que ces salaires ont été gelés pendant toute la période Covid. La direction propose aujourd'hui une augmentation de 5%. Les syndicats demandent entre 6 et 7% pour couvrir l'inflation. Cette grève a donc de grandes chances d'aboutir et des perturbations sont à prévoir pour les avions EasyJet. Les syndicats conseillent d'ailleurs aux passagers de d'ores et déjà s'organiser.
Rémi Inc. En bref, deux personnes mises en examen après la découverte du corps de Marwan, un jeune homme porté disparu depuis la fin du mois de septembre. Son cadavre a été retrouvé près de Rouen. Les suspects ont été déférés pour actes de torture et de barbarie ainsi qu'assassinat. Et puis en bref, le rappeur Kobaladé, placé en garde à vue après une grosse bagarre à la sortie d'un concert à Paris. Il a été interpellé hier matin à la sortie d'une boîte de nuit du 9e arrondissement de la capitale.
7h32, après l'émotion, le temps des questions en Italie. Que s'est-il passé hier à Ischia?
Une femme est morte et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues ce matin après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies sur l'île italienne d'Ischia, île volcanique au large de Naples. Les opérations de secours sont rendues difficiles à cause de la météo. Charles Franquiol est géologue.
D'une part, il y a beaucoup de pentes à Ischia. C'est une île volcanique très pentue. Dès qu'il y a des fortes pluies, ça se canalise dans des rigoles, dans des vallons. Et puis d'autre part, il y a beaucoup de terrains et de nature argileuse. Vous gorgez d'eau, d'abord l'argile gonfle, et puis paf, ça peut partir, ça peut se décrocher. Comme un peu un jeu de cartes que vous huilez et que vous penchez. Ben, à un moment donné, les cartes peuvent glisser les unes sur les autres, quoi.
Et puis, J-28, avant Noël, le compte à rebours est lancé. Vous avez peut-être prévu d'acheter vos cadeaux aujourd'hui. Les magasins ouvrent le dimanche, désormais. Avant Noël, c'est la mission. À mesure que les prix augmentent, la hotte du Père Noël est de moins en moins remplie, Stéphane.
Preuve en est, Mathieu. Le budget moyen pour les cadeaux cette année est de 386 euros. C'était 408 euros l'année dernière. Anna Huot est allée vérifier si vous aussi, vous allez réduire vos dépenses de Noël dans les rues de Paris. Reportage.
De tout petits cadeaux, voilà comment Saïda décrit les paquets qu'elle déposera au pied du sapin cette année.
Avant, moi, je mis toujours un petit peu de sous à côté pour les cadeaux. Mais maintenant, non, on peut pas. Tout, il passe pour le loyer, pour les factures.
Pour Céline aussi, c'est un Noël sous le signe des économies.
Cette année, on va faire des cadeaux aux enfants, mais pas entre adultes.
Moins de cadeaux et à plus petit prix.
J'ai un petit peu profité du Black Friday, alors que je ne l'avais jamais fait auparavant.
Le budget, on va dire 50 euros pour les petits, et pour mes filles, c'est au moins 100
100 euros.
D'habitude, c'est un peu plus. Bah,
déjà, pour mes filles, c'est au moins 250, voire 300 euros.
Et sans surprise, les ménages qui réduiront le plus les dépenses de Noël sont ceux déjà touchés par l'inflation, explique François Croze, directeur du pôle politique à l'IFOP, à l'origine de l'enquête.
C'est surtout, en fait, les foyers aux revenus les plus modestes, et notamment chômeurs, personnes isolées, bref, particulièrement ceux qui sont affectés par les hausses des prix de l'énergie ou des carburants.
Et selon cette étude, le budget moyen des cadeaux de Noël devrait baisser de 20 euros par rapport à l'an dernier.
Il est 7h34.
RMC, le journal des sports.
Remontée de balle, Théo Hernandez avec Kylian Mbappé. Dans l'axe, il y a Dembélé. Au deuxième poteau, il y a Giroud. Avec Mbappé, l'accélération, le dédoublement. Théo, le centre en retrait. La frappe de Mbappé.
Jean Rességuier qui était au commentaire hier. Deuxième match et deux victoires pour l'équipe de France. C'est un sans faute dans cette Coupe du Monde.
Une victoire 2-1 face au Danemark. Les 30e et 31e buts de Kylian Mbappé en bleu. La France peut filer tranquillement en 8e de finale. Arthur Perrault.
Oui, les Bleus peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils sont les premiers à se qualifier pour la phase d'élimination directe avec 6 buts en 2 matchs. Le sélectionneur Didier Deschamps savoure.
Il y a une disponibilité très importante des joueurs offensifs. Très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs, c'est d'avoir la tranquillité, la sérénité d'être déjà qualifié après deux matchs. Il y a encore des choses à améliorer.
Plus d'efficacité face au but, de vigilance sur les coups de pied arrêtés. Mais l'état d'esprit ne change pas, le groupe vit bien. La clé pour la suite de l'aventure, selon le défenseur Raphaël Varane.
Il y a des choses perfectibles, on va essayer de les gommer pour aller loin dans la compétition. On est content, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mentalité de compétiteur, de gagneur. On va essayer de faire le maximum pour aller le plus loin possible.
Cela passe avant par un dernier match de poule, mercredi contre la Tunisie. Deschamps déjà prêt à faire souffler son groupe.
Et ça c'est sûr, ouais. Ne demandez pas qui, comment, beaucoup. C'est l'avantage de l'équipe qui gagne les deux premiers matchs et qui est déjà qualifiée.
Un atout non négligeable pour l'équipe de France dans sa conquête d'une troisième étoile de champion du monde.
Avec les jambes en feu de Kylian Mbappé, tout est possible. Le Français, 23 ans seulement, faut-il le rappeler, a déjà inscrit 7 buts en Coupe du Monde. Il est désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus dans cette compétition. De quoi laisser Didier Deschamps admiratif de son jeune attaquant.
Le fait d'avoir d'autres joueurs autour de lui aussi qui amènent du danger lui permettent d'être un peu plus libéré. Puis au-delà de ses énormes qualités au-dessus, bien sûr, hors normes, il s'inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d'efforts. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France a et aura besoin d'un très bon Kylian.
Un très bon Kylian et une très bonne défense aussi, c'était une des inquiétudes du début de ce mondial. Une charnière très jeune, mais Dayo Upamecano associé à Raphaël Varane, a encore livré un match solide hier et le défenseur du Bayern Munich en veut encore plus.
C'est toujours bien de gagner. Comme j'ai dit, moi, je suis affamé de victoire. Je pense le groupe aussi. Je pense que voilà, on était tous très heureux de cette victoire. On a bien fêté. Après, on sait que c'est que le début. On va pas abandonner. On va tout donner pour aller le plus loin possible dans cette compétition.
Et puis, il y a un autre match. L'autre match à suivre aujourd'hui sur RMC, c'est la Belgique qui affronte le Maroc à 14h.
Les Belges devront l'emporter s'ils veulent rester en course. Ils ne se sont pas complètement rassurés après leur courte victoire face au Canada 1-0. Mais écoutez, le capitaine des Diables Rouges, Eden Hazard, le titre mondial est un objectif à une condition.
Je pense que la Belgique peut gagner la Coupe du Monde si Eden il est bon. Si Eden il est moins bon, ce sera plus difficile. Mais voilà, tout est possible. Et moi, j'ai juste envie d'être sur le terrain. J'ai passé 3 années un peu compliquées. Et quand je suis sur le terrain, je suis toujours heureux. Donc moi, prendre les choses en main, à moi demander le ballon, à moi faire des différences, à moi prendre du plaisir, à moi marquer des buts. Donc voilà, je suis là pour ça.
Ouais, vous l'avez compris, la Belgique peut gagner le Mondial à la seule condition qu'Eden Hazard soit bon. C'est un peu Alain Delon Hazard, ce capitaine des Diables Rouges.
Eh bien, dites-moi. On aura compris la préférence de Stéphanie Rock. Alain Delon pour Eden Hazard et le très jeune et déjà si grand Kylian Mbappé. Non, je vous ai entendu.
Si précoce, trop jeune ouais, pour si vous. Précoce, mais non.
Elle ne manque pas de superlatif pour Kylian
pas,
Mbappé.
Qu'est-ce qu'elle me fait pas dire.
Non, mais en même temps, homme du match, Kylian Mbappé, hier, homme de tant d'autres matchs, homme déjà de ce mondial, tiens, 32-16, vous avez regardé le match, on l'analyse ensemble ce matin et avec Daniel Riolo tout à l'heure. À 8h10, merci Stéphanie Rock et Stéphane Genès. Prochain arrêt pour l'info et le sport, le journal de 8h. En attendant, Peggy, je vous emmène à bord. On monte à bord, vous
allons-y.
Allez comprendre. Direction la Drôme, bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Allez, bonjour à tous.
Conducteur de TGV, Christophe. Ça fait plaisir, il y a des fans de train autour de la table.
Eh ben, c'est très bien, c'est très bon pour la planète.
Conducteur de train, vous vous apprêtez à partir ?
J'ai déjà commencé, là je suis déjà descendu à Valence, là, je suis basé à Lyon.
D'accord.
Et j'attends un autre train là, que j'emmène jusqu'à Montpellier, et puis après je remonte sur la capitale.
Ah oui ?
C'est génial. Petite journée tranquille.
Une petite journée, on finit quelques kilomètres, bon, un bon millier de kilomètres on va dire.
Vous pouvez faire un millier de kilomètres en une journée, c'est quoi votre record ?
Je crois qu'on a des journées, je crois que c'est à 1200, un truc comme ça, ouais.
Avec toujours le même plaisir, ça fait combien de temps, Christophe, que vous conduisez des TGV ?
Alors moi, je suis tout jeune au TGV, ça va faire 2 ans et demi que je conduis des TGV. Après, ça va faire 22 ans que je conduis les trains.
Vous étiez sur quel type de machine avant le TGV ?
Oh là là, bah avant, moi j'ai eu la chance, je faisais un peu de tout. On faisait du train de fret, du train de TER, du train grande ligne, du train de nuit, et puis. Donc on faisait vraiment de tout avant.
Vous avez déroulé du rail, quoi, Christophe.
ouais, c'est vrai. C'est vrai que des traverses, on en a. J'en ai vu un petit peu, peut-être.
Formation spécifique, j'imagine, pour devenir conducteur de TGV, alors ?
Eh ben, il y a une licence à passer, une formation en plus pour la signalisation, pour les engins, voilà, c'est des lignes particulières.
C'était un rêve de gosse ?
Conducteur de train ? Oui, quand même.
Souvent,
ouais.
Hein, en général.
On va pas se cacher, c'est sûr. Ouais.
Vous avez toujours la même ligne ou pas ? Parce que là, vous faites Montpellier, Valence, Paris.
Alors comme je suis basé sur Lyon, je vais sur Genève au départ de Paris, Grenoble, Saint-Étienne, Marseille, Toulouse au départ de Lyon. Où est-ce que je vais encore ? Marne-la-Vallée, bon, Paris évidemment.
Et quand c'est comme ça, vous faites escale combien de temps ? Une journée ? Et vous repartez le lendemain ?
Enfin, c'est pas des journées. Enfin, en général, on arrive, on dort 8-9 heures et puis on repart après derrière Marseille.
D'accord.
Là, le prochain départ, c'est quelle heure, précisément ? Parce que je ne veux pas vous mettre en retard.
Pas de soucis. Là, j'ai un petit creux. Je repars au coup des 8h20.
C'est précis, ça, pour un conducteur de TGV.
Ouais,
au 8h20.
Il faut être à l'heure, hein.
Christophe.
Mais je remarque qu'RMC est à l'heure, parce que quand on me dit c'est 7h38, c'est 7h38. Hein.
Ah, bah alors là, et ça, vous savez, on fait le même métier que vous, Christophe. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. D'ailleurs, le chrono vient de se terminer à la seconde près, Christophe. On n'a plus le temps. Il faut se dire au revoir. Et Christophe, vous allez me faire un grand plaisir tout à l'heure, quand vous partez aux alentours de 8h20, si des passagers vous faites Valence, Montpellier, c'est ça ?
Ouais, mais Valence Montpellier avec le Ouigo 78-71.
Si des passagers montent à bord de ce TGV, vous leur lancez la sirène au départ et ils sauront pourquoi. Ok, Christophe ?
ça va être tôt, là. Ça va être dimanche. Ça va être tôt.
Merci, Christophe, de ce petit coup de fil.
Bonne journée.
C'est la magie du dimanche matin sur RMC. Salut, Christophe. À bientôt. Allez, dans un instant, pas très loin de Montpellier, d'ailleurs. Nous partons dans l'Hérault. Les enfants d'une dizaine de communes là-bas n'ont plus le droit à un repas complet depuis une ou deux semaines. Privés de dessert à cause de l'inflation. Pourquoi ? Parce que le prestataire de la cantine est pris à la gorge avec la hausse des prix. Le directeur général de la société prestataire SHBC, Thierry Pompanon, est avec nous. Et le député de l'Hérault, Patrick Vignal, sera aussi en ligne. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
7h43 sur RMC. Entrée, plat, fromage, dessert, c'est terminé. Dans les cantines, les crèches, les foyers seniors d'une dizaine de villes autour d'Agde, dans l'Hérault, le prestataire des repas a réduit son offre à cause de l'inflation.
L'invité du jour.
Bonjour Patrick Vignal.
Bonjour.
Vous êtes député Renaissance de l'Hérault. En colère contre ce prestataire.
Oui, vous savez, je pense qu'on ne peut pas prendre les enfants des cantines en otage. Vous savez, dans beaucoup de cas, les enfants, c'est le seul endroit où ils font des repas, je précise, de qualité et des repas complets. Donc, dans quel monde on vit, il faut que les adultes arrivent à se parler et que nos enfants, nos gamins ne soient pas pris en otage pour la cantine.
Comment on arrive à cette situation ? Écoutons un peu les explications en direct. Bonjour Thierry Pompanon.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général délégué du groupe SHCB.
C'est ça.
C'est le groupe qui a contrat avec la ville d'Agde, une dizaine de villes aux alentours. Pourquoi vous avez pris une telle décision, ne plus servir de dessert ou d'entrée à des enfants, à des seniors dans les foyers ?
Alors, il y a un contexte qui est un peu particulier, que tout le monde connaît, mais je vais essayer de faire un petit scope très rapide. Depuis 2 ans, nous avons vécu une période Covid qui a été très compliquée pour notre métier, puisque 90% de notre chiffre d'affaires était à l'arrêt. Et depuis début d'année 2022, tout le monde connaît l'inflation, mais l'inflation a frappé tous les éléments qui construisent le prix d'un repas. Et donc, avec des frais de personnel qui ont augmenté, de la matière première qui a augmenté, les carburants, les fluides, les emballages, et dernièrement, un vrai séisme avec les coûts d'électricité qui ont pris 926%, en tout cas pour le compte des SHB.
Le prix d'un repas, Thierry Pompanon, la ville vous paye combien ?
Alors, j'ai été très agréablement surpris que la ville avait accepté une augmentation sans que je le sache, puisque sur une chaîne d'émission du 20h, j'ai entendu que le prix était de 4,27. Actuellement, il est facturé 3,97.
Vous facturez aux villes avec lesquelles vous êtes sous contrat 3,97 euros le repas. Et avec 3,97 euros, vous n'arrivez plus aujourd'hui à faire un repas entrée plat dessert ?
Pardon, excusez-moi.
Avec ce chiffre, 3,97 euros, vous n'arrivez plus à fournir un repas entrée plat dessert ?
Non, et en fait, si vous voulez, c'est ce qui constitue le prix d'un repas, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un tissu économique local, en achetant sur des producteurs locaux, qu'il faut rémunérer à sa juste valeur. Et dans l'inflation, je ne connais pas de système qui équilibre le fait de payer correctement ses fournisseurs et de ne pas pouvoir répercuter l'inflation du prix du repas. On sait aussi que chaque personne, quand on va faire le plein d'essence devant la pompe à essence, on a beau râler, on paye 50 centimes de plus du litre. Aujourd'hui, le prix d'un repas devrait augmenter de 60 centimes, minimum 30 centimes pour les frais de matières premières qui ont flambé de 8 à 200 à 300% sur certaines matières premières, et 30 centimes
pour l'énergie. J'entends bien Thierry Pompanon, vous n'êtes pas le seul, mais vous bénéficiez pas d'ailleurs de ce guichet qui a été ouvert pas plus tard que le week-end dernier par le ministère de l'économie ?
Alors, sur le guichet électrique, on est en train de regarder ça, c'est sous condition, on n'a pas encore... On n'a pas encore eu tous les éléments. Il est évident que si jamais on rentrait dans un critère qui nous permette de bénéficier d'une amélioration de ce surcoût électrique, on le répercuterait chez nos clients.
Patrick Vignal.
Ben écoutez, monsieur le directeur, moi j'entends vos arguments. Je crois que la France est le seul pays où on a fait le quoi qu'il en coûte. Moi-même, je suis chef d'entreprise et je sais que c'est compliqué. Et puis, cher monsieur, ça va être compliqué pendant un an. Moi, il y a deux choses qui me gênent. C'est que il me semble que pendant le Covid, on a fait le quoi qu'il en coûte, on a aidé les entreprises, on a fait le chômage partiel. Et là, on a mis ce chèque énergie qui va vous permettre à vous, comme des milliards d'entreprises, de pouvoir compenser. Et puis, ce que je sais, parce que j'essaie de connaître mes dossiers, j'ai échangé beaucoup avec Gilles Détour, le maire d'Agde, son premier adjoint, M. Bonafou, et le maire de Saint-Georges-d'Or, M. Audrin, qui ont été surpris que vous preniez cette décision d'enlever ou l'entrée ou le dessert sans avertir les élus. Et donc, je pense que c'est ça dans la négociation. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu, si vous voulez, cette relation. Le maire d'Agde me confirme que le 12 juillet, il a voté une subvention supplémentaire de 113 000 euros. Vous confirmez ?
Alors, je vais revenir sur le sujet des aides de l'État. Je pense que vous faites erreur. Pendant la période Covid, nous avons eu aucune aide dans la restauration collective. Si ce n'est de dire que le chômage partiel, comme vous êtes chantier d'entreprise, vous devez savoir que reste à charge de l'employeur 30% du salaire. Si vous avez 500 salariés, 30% des salaires de 500 salariés à payer avec des frais fixes d'entretien de nos cuisines, nos bâtiments, sans entrée de chiffre d'affaires, c'est pas une aide. La restauration collective n'a pas eu les mêmes aides que la restauration commerciale.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Thierry Pompanon, très clairement, vous êtes pris à la gorge. On comprend bien la pyramide descendante pour vous. Mais très honnêtement, ce qui a choqué, c'est qu'effectivement, du jour au lendemain, les enfants arrivent à la cantine, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de dessert, il n'y a plus de fromage. Vous allez aller jusqu'où ? C'est-à-dire que demain, si vous ne pouvez plus faire travailler vos salariés, il n'y aura plus de repas dans les cantines du jour au lendemain ?
Je vais reprendre dans l'ordre, mais effectivement, un moment pour équilibrer une entreprise, il faut bien un moment qu'on puisse servir les repas. Et si aujourd'hui on est dans cette situation, il faut savoir que les tenants aboutissants ne sont pas tout à fait ceux que je viens d'écouter. Depuis 2 ans, nous essayons de négocier avec la ville d'Agde, avec laquelle nous sommes en délégation de service public. La période Covid nous a, en fait, on a manqué 200 000 repas qui nous ont coûté 2 euros de frais fixes. Je vous laisse calculer, ça fait 400 000 euros.
400 000,
donc,
ouais.
Quand je vois la mairie qui parle de 113 000 euros, qui est sur ces 113 000 euros à débloquer que 75%, donc quasiment 70 000 euros, 70 000 euros et 400 000 euros, ça fait pas tout à fait pareil.
Aujourd'hui,
depuis plus d'un an, on essaye avec la mairie de parler d'inflation, de trouver des solutions. On a fait des propositions. On a demandé une médiation avec la mairie pour parler de ça. Le maire nous l'a refusé. Donc je trouve ça, si vous voulez, quand on dit, il faut bien comprendre la mécanique. Nous sommes pas en direct avec les familles. Nous sommes en direct avec les mairies. Et donc les enfants, c'est pas nous qui les prenons en otage. Nous continuons, bien au contraire, d'assumer les repas, comme on a fait pendant la période Covid, où nos cuisines étaient principalement fermées. On a décidé, pour maintenir le lien social avec les personnes âgées, de continuer à faire des repas pour eux.
Ce que je comprends bien, c'est le même schéma que le salarié qui vient réclamer une augmentation au patron du fait de l'inflation. Vous dites, les mairies, les collectivités, vous m'employez, en quelque sorte, en tant que prestataire de cantine. Augmentez-moi. Patrick Vignal, au-delà du cas d'Agde, il y a tous ces prestataires, Sodexo et Lior, qui, il y a une quinzaine de jours, lançaient une tribune, 9% d'augmentation sur les contrats. Le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, répondait « ça suffit le chantage, que les mairies reviennent à des régies ». Comment résoudre ce problème? Il n'y aura plus de prestataires de cantine dans quelques mois, si on continue comme ça.
Oui, je pense qu'effectivement, à l'arrivée, ce sera en régie, et je ne suis pas certain que ça fonctionne mieux. Vous savez, le vrai débat qu'on a en France en ce moment, c'est un débat de fond, parce que je pense que, monsieur le directeur, vous arriverez à le régler, puisque le maire d'Agde m'a dit hier « on va trouver une solution ». Comment la mairie d'Agde pourrait servir 2500 repas tous les jours. Mais le vrai débat, j'ai l'impression que c'est un peu du chacun pour soi, sauf qui peut. On a besoin d'une France solidaire, une France soudée. Il va falloir que chacun fasse un pas. Et à la fois que nous, l'État, on soit capable d'aider ce qui est le plus important. Et encore une fois, le plus important, quand une société ne peut pas mettre à disposition de nos enfants une entrée, un plat et un dessert, ça pose le vrai débat de la société et de faire commun. Donc oui, le quoi qu'il en coûte devra continuer pour les gens les plus modestes et pour ceux qui en ont le plus besoin, mais ça veut dire aussi que c'est un problème politique et ça veut dire qu'effectivement, et vous le voyez en ce moment à l'Assemblée, en fait, tout le monde est en ébullition et en fait, plus personne ne se parle et tout le monde reste sur ses acquis. On est dans ce cadre-là actuellement en France.
Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi Thierry Pompanon, directeur général délégué du groupe SHCB. Il est 7h52.
À suivre dans la matinale week-end.
Direction Washington, Emmanuel Macron visite d'État aux États-Unis.
Et il sera reçu par qui officiellement pour la première fois? Par le président américain, Joe Biden, qui est dans le portrait.ca dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Le portrait de Poincar.
Allez, 7h53, nous étions dans le TGV tout à l'heure. Partons dans l'avion pour direction les États-Unis. Emmanuel Macron, en tout cas en début de semaine, se posera à Washington pour une visite d'État. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour.
Et celui qui va l'accueillir, c'est évidemment Joe Biden, le président américain.
Oui, de son vrai nom, Joseph Robinette Biden. Robinette en raison d'une grand-mère d'origine française protestante, mais les racines du président américain sont plutôt irlandaises et catholiques. Il a fêté dimanche dernier son 80e anniversaire à la Maison-Blanche, ce qui a fait de lui le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Un âge qui commence à se voir, les médias américains scrutent ses bourdes, ses lapsus, ses trous de mémoire, voire ses chutes. Il a commencé un discours récemment en demandant des nouvelles d'une sénatrice locale, sauf que tout le monde savait, sauf lui, que cette sénatrice venait de mourir dans un accident de voiture. La semaine dernière encore, il s'est envolé vers le Cambodge en se disant ravi de partir pour la Colombie. Il a évoqué le départ des troupes russes de Kherson en Ukraine en parlant du retrait de Fallujah, qui est le nom d'une ville irakienne qui était dans l'actualité il y a presque 20 ans. Enfin, il a salué l'arrivée du Premier ministre anglais Rishi Sunak en l'appelant Rishi Sunak. Ça fait beaucoup de quoi se poser des questions sur les capacités intellectuelles du président de la première puissance mondiale.
Et pourtant, il envisage de se représenter en 2024.
Oui, il l'envisage. Il l'a dit en septembre dernier dans un entretien à l'émission 60 Minutes. Une candidature qui n'est pas encore officialisé. Dans un premier temps, personne n'a pris très au sérieux cette perspective, mais depuis, les choses ont un peu changé, parce que Joe Biden a sauvé les meubles aux dernières élections de mi-mandat. Il a gardé la majorité au Sénat et limité la casse à la Chambre des représentants, ce qui lui redonne une vraie crédibilité, faute d'avoir une grande popularité. À son bilan, on retient un échec, le retrait catastrophique de l'armée américaine d'Afghanistan. Un échec, mais aussi des succès, comme le plan de relance après la crise du Covid, et surtout une très grande fermeté face à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Sleepy Joe, comme le surnomme Donald Trump, n'est peut-être pas aussi endormi qu'il en a l'air. S'il devait vraiment se représenter, il aurait 82 ans au moment de l'élection, et en cas de victoire, 86 ans à la fin de son second mandat. On a un peu de mal à y croire.
Merci Nicolas Poincaré. Nous verrons en tout cas. Le portrait à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Au programme jusqu'à 9h, Peggy. Vous voulez le programme ?
Donnez-le nous.
Je vous le donne. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, bientôt inscrite dans la Constitution. Les députés ont voté jeudi, décision historique. Et maintenant, ça va changer quoi ? Ça va changer quoi pour les femmes ? Réponse tout à l'heure à 8h40 avec Rada Atem-Ganzer, gynécologue, fondatrice de la Maison des Femmes, et Blandine Lenoir, réalisatrice d'Annie Colère. C'est un film qui sort mercredi dans toutes vos salles de cinéma sur le combat du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Nous en discutons à 8h40. 8h10, Daniel Riolo sera avec nous, l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes. Est-ce que vous voyez l'équipe de France jusqu'en finale ? 32-16 pour participer au débat. Et dans le journal de 8h, quelle stratégie adopter justement pour cette équipe de France après la qualification ? C'est la question posée. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
La matinale week-end.